Radio Okapi. Le journal, présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
L'armée congolaise invite les habitants de l'Ituri au calme à la suite des rumeurs à propos du renforcement des effectifs des militaires ougandais à Boga, territoire d'Irumu. Le porte-parole des FARDC en Ituri précise que les opérations militaires conjointes sont menées pour sécuriser des civils. 52 millions de dollars américains, c'est le montant dont l'UNICEF a besoin pour garantir la scolarité de près de 480 000 enfants de l'Est de la RDC. L'appel de fonds est lancé à travers un communiqué publié hier à Kinshasa. La porte-parole de la MONUSCO est l'invité de Radio Okapi. Kadindeyelo va parler de l'évacuation du personnel congolais de la MONUSCO de Beni comme mesure préventive, ainsi que sur les rumeurs faisant état du retrait de la MONUSCO de la ville de Bunia en Ituri. Bonjour à tous. En Ituri, l'armée appelle la population au calme et surtout à vaquer librement à ses occupations. Message émis après le renforcement des effectifs des militaires ougandais sur le sol congolais à Boga, dans la partie sud du territoire d'Irumu. Une première réunion sécuritaire a eu lieu hier lundi à Boga, à 120 km de la ville de Bunia. Les FARDC et les UPDF ont échangé sur la mutualisation de leurs moyens dans cette partie de la province où les rebelles des ADF sont actifs. Le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, indique que les relations entre les deux armées sont au beau fixe et que les opérations conjointes sont menées dans le but de garantir la sécurité des civils. Un extrait du message du lieutenant Jules Ngongo est choisi ici par Ezekiel Mouzalia.
Nous revenons de Boga où il y a eu une réunion d'harmonisation pour que l'UPDF et les forces armées, d'ailleurs dans le cadre des opérations conjointes, pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre les deux armées, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Tout ce qui peut créer la psychose. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. La population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri, parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations.
De son côté, la porte-parole de la MONUSCO s'insurge contre la manipulation et l'intox de l'opinion contre la mission onusienne. Ndeye Kadilo répondait hier à ceux qui distillent des rumeurs pour discréditer la MONUSCO, alors engagée aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour sécuriser la population civile. À cette occasion, elle a encouragé la population à soutenir les initiatives de paix à travers le pays. Ndeye Kadilo est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La MONUSCO ne soutient aucun groupe armé en RDC. Son mandat est de protéger les civils, de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo afin de contribuer à la paix. Les hélicoptères de la MONUSCO servent uniquement aux missions de maintien de la paix et à la mise en œuvre du mandat de protection. Donc il faut que les populations comprennent qu'il y a des personnes qui ont un intérêt particulier à propager ce genre d'informations. Donc il faut partager des informations vérifiées et consulter les sources officielles de la MONUSCO et des médias crédibles pour éviter la propagation de ce genre de fausses nouvelles. La MONUSCO ne peut pas être aux côtés des FARDC, combattre avec les FARDC, perdre des casques bleus qui ont perdu leur vie en RDC, qui ont versé leur sang pour la paix en RDC et après transporter des groupes armés dans ces hélicoptères. C'est absolument faux et ça n'a aucun sens. Non, le message que nous voulons lancer à travers votre antenne, c'est juste de réitérer notre appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils et nous appelons les populations à favoriser les initiatives de paix.
Pendant ce temps au sud Kivu, le calme est revenu hier dans la ville d'Uvira après des agitations qui ont fait 12 morts, civils et militaires confondus. Cette tragédie a été provoquée par une incompréhension autour des armes entre les FARDC et les patriotes Wazalendo. Ces derniers voulaient que les militaires qui étaient en train de s'éloigner du front nord vers le sud de la province remettent les armes. Le refus des militaires de remettre leurs armes aux Wazalendo a débouché aux affrontements. Le président de la société civile des nationalistes congolais, Serge Kigwati, témoigne au micro de Radio Okapi.
La ville d'Ouvira est en état de psychose, de la guerre. C'est pour cela que les commerçants ont jugé bon d'aller prendre les marchandises dans leurs boutiques pour aller dans leurs maisons d'habitation. En plus, il y avait aussi une compréhension entre Bazalendu et les FARDC. Les Bazalendu demandent les armes auprès des FARDC. Et les FARDC ne veulent pas donner aux Bazalendu les armes. C'est là où il y avait l'échange de tirs des deux côtés, entre les Bazalendu et les FARDC. C'est là où il y avait mort d'hommes. Et aujourd'hui, nous sommes réveillés, il y a un peu de calme. Dans la ville, il n'y a pas de tirs. On n'a pas attendu des tirs un peu partout.
En plus bref, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, la société civile de la commune rurale de Kiondo, située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Butembo, a lancé hier la deuxième opération de collecte de fonds des vivres et non-vivres au bénéfice des FARDC et Wazalendo engagés au front contre le M23. Selon des sources administratives, des équipes de collecte ont été mises en place pour faciliter cette opération. Joachim Mohindo Viagula, bourgmestre de la commune de Kiondo, appelle la population à l'unité et au patriotisme afin de contribuer au rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Guerre en RDC. L'UNICEF lance un appel de fonds pour les enfants de l'est du pays. Dans un communiqué publié hier, l'UNICEF précise que pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 480 000 enfants congolais, dont 330 000 supplémentaires privés d'éducation, alors que la crise s'intensifie dans l'est du pays, il lui faut 52 millions de dollars américains. Ces fonds devraient aider aussi globalement tous les 2,6 millions d'enfants actuellement déplacés dans l'est de la RDC. Élise Kavira nous fait la synthèse de ce communiqué.
Depuis le début de l'année, le violent conflit a forcé la fermeture de plus de 2500 écoles et espaces d'apprentissage dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, y compris dans des camps de déplacés. Les écoles étant fermées, endommagées, détruites ou encore transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation contre 465 000 en décembre 2024. En incluant la province de l'Ituri, plus d'un million d'enfants dans l'est de la RDC ne sont plus scolarisés. C'est une situation désespérée pour les enfants, a déclaré Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC. L'éducation et le système de soutien qu'elle fournit est ce dont les enfants ont besoin pour conserver un sentiment de normalité et pour se relever et se reconstruire après ce conflit. L'UNICEF soutient la continuité de l'éducation dans l'est de la RDC en travaillant avec ses partenaires à la mise en place d'espaces d'apprentissage temporaires et à la distribution de matériel scolaire ainsi que des kits d'hygiène et d'assainissement. L'UNICEF étudie également la possibilité d'utiliser l'éducation par la radio et des programmes d'apprentissage accélérés pour atteindre les enfants les plus éloignés et les plus marginalisés. Avec les mines et les munitions non explosées laissées autour de Goma, y compris dans les écoles ou à proximité immédiate. L'UNICEF appelle également les parties au conflit à respecter les établissements d'enseignement et les autres biens civils conformément à leurs obligations en vertu du droit international et à mettre immédiatement fin à l'utilisation militaire de tout établissement d'enseignement.
Notez aussi qu'après 4 semaines environ de perturbations dues à la guerre entre les FARDC et les M23 AFC en pleine Goma, hier le courant reprit dans plusieurs écoles de la ville, notamment dans des écoles primaires privées. La guerre a provoqué des mouvements importants des élèves vers des lieux sécurisés, vous le savez. Les parents d'élèves en déplacement sollicitent les facilitations auprès des chefs d'établissement scolaire en faveur des écoliers qui ont fui la guerre du M23 pour terminer l'année en beauté. Denise Lukeso.
Cette reprise est beaucoup plus observée dans des écoles privées après une semaine de révision et de nettoyage des infrastructures légèrement affectées par les effets de la guerre, comme c'est le cas du complexe scolaire Un Jour Nouveau et au lycée Tchem Tchem. Les lycéennes ont répondu aussi présentes pendant cette période des examens du premier semestre. Cependant, beaucoup de parents dubitatifs hésitent toujours d'envoyer leurs enfants, craignant l'environnement sécuritaire qui n'inspire pas confiance selon eux. Pendant ces temps, beaucoup d'élèves et écoliers restent toujours en déplacement. Certains, se trouvant à Kinshasa, la capitale, aux côtés de leurs parents, se questionnent toujours pour leur sort, alors que 3 mois seulement séparent de la fin de l'année scolaire 2025. Certains parents plaident auprès du ministère de l'EPST de faciliter la réinscription de leurs enfants afin de ne pas perdre cette année scolaire.
L'approvisionnement en eau courante de la régie des eaux est devenu un casse-tête pour bien de ménages dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Si dans les anciens quartiers, la population est desservie en eau potable, tant bien que mal, dans les nouveaux quartiers, l'eau de la régie des eaux est rare. Les habitants de ces entités sont obligés de se débrouiller pour utiliser l'eau des puits, laquelle n'est pas traitée. Entre-temps, la régie des eaux continue à émettre des factures que d'aucuns qualifient d'arbitraires, puisque ne tenant pas compte de la consommation réelle de l'eau par les abonnés. Le point avec Jacques Moukongole.
L'eau courante de la régie des eaux n'écoule pas régulièrement dans beaucoup de quartiers de la ville, notamment dans de nouveaux lotissements tels le bloc Motumbe au quartier Plateau Boyoma. Les habitants de ces coins très peuplés d'ailleurs sont approvisionnés de façon aléatoire, comme en témoigne cette fille.
Pendant une ou deux semaines, l'eau ne vient pas, et quand ça vient, c'est pendant la nuit, dans des heures tardives. Ça fait une heure ou deux heures, et puis ça part. Il n'y a pas vraiment d'eau ici.
Alors que les factures sont émises mensuellement et honorées par les consommateurs, l'approvisionnement en eau courante demeure difficile, comme si on était au Sahara, commente un habitant du quartier. Les ménages sont obligés de recourir au puits pour pallier cette carence en eau.
Nous sommes obligés d'aller au puits pour puiser l'eau, pouvons laver avec les assiettes, prendre bain avant d'aller à l'école, donc c'est très difficile pour nous ici d'avoir de l'eau.
Le directeur de la régie des eaux se dit conscient de ce déficit. Néanmoins, Blaise Kouta résume les difficultés éprouvées en deux volets. D'abord, les coupures régulières de l'électricité de la SNEL, et ensuite, l'inadéquation entre la capacité fonctionnelle initiale de l'usine de production et le nombre d'habitants de la ville.
La population de Kisangani a augmenté par rapport à la capacité de production qui à l'époque était dimensionnée pour desservir 500 000 habitants. Et aujourd'hui nous sommes à 2 millions d'habitants.
Jacques Moukongole, Kisangani, Radio Okapi.
Et pour résoudre durablement ce problème d'eau, le directeur de la régie des eaux dans la Grande Orientale affirme qu'il faut nécessairement appliquer le plan directeur de cette entreprise, un plan dont le montant s'élève à 299 millions de dollars américains. Au Kasaï Central, le gouverneur de province a lancé le week-end les travaux de construction du micro-barrage hydroélectrique de Mbombo. Il est situé à plus d'une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kananga. La première étape consiste à aménager la voie d'accès de 8 km jusqu'à la rivière, selon l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre qui exécute les travaux. Cette agence, qui se donne 24 mois pour finir les travaux, a souligné que les études faites ont démontré que Mbombo peut produire 12 MW de courant électrique et éclairer la ville de Kananga. La RDC est un géant minier connu mondialement. Le pays exploite sur son sol le cobalt, le cuivre, le diamant, l'or, le coltan et l'étain. Cette exploitation se pratique de manière industrielle tout comme artisanale et l'exportation de ces minerais est classée selon le mode de production tel que le révèle le rapport 2024 du ministère congolais des Mines. Un rapport produit par une structure spécialisée du ministère, la CTCPM, Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière. Dans une série de reportages, Radio Okapi vous présente les diverses tendances 2024 d'exploitation et exportation des principaux minerais de la RDC. Ce matin, nous commençons par le diamant. Billy Ivan Lutumba.
Parlons de la production du diamant. La cellule révèle que pour l'année 2024, 98% de la production industrielle du diamant ont été réalisées par la société Sassim basée dans le Kasaï oriental et les deux autres pourcents sont celles de la géante minière de Bakwanga. La CTCPM signale que depuis le mois de mars 2024 jusqu'au mois d'août de cette même année, l'AMIBA n'a pas produit, ce qui rend sa production marginale. Pour ce qui est de la production artisanale du diamant à travers le pays, c'est la province du Kasaï oriental qui vient encore en tête avec 98,9% en quantité exploitée en 2024. Pour cette année, la production totale du diamant de la RDC provient principalement du secteur artisanal avec plus de 66%, suivi de l'exploitation industrielle avec environ 33% et enfin celle de l'exploitation semi-industrielle. Qu'a-t-on fait de toute cette production ? La cellule renseigne que du secteur industriel, seule la société Sassim a exporté son diamant alors que l'AMIBA a vendu localement, en précisant que la grande part du diamant congolais sorti du pays pour la vente provient logiquement du secteur artisanal. Que ce soit au niveau de la production que de l'exportation, le rapport note une augmentation respective de 18% et 17% au cours du dernier trimestre 2024 comparativement à celui de 2023.
Actualité internationale.
Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a qualifié de génial le plan du président américain de prendre le contrôle du territoire palestinien et déplacer ses habitants, un plan rejeté dans le monde entier. Mais Israël prend dès à présent des mesures concrètes pour faciliter l'émigration volontaire des Palestiniens de Gaza, notamment la création d'une agence spéciale pour le départ volontaire des habitants de Gaza au sein même du ministère israélien de la Défense. Le premier ministre israélien explique que cette cellule sera chargé des arrangements spéciaux pour les Gazaouis désireux de quitter l'enclave palestinienne par mer, par air ou par terre et également d'autres modalités visant à faciliter leur départ.
L'invité.
La MONUSCO évacue depuis quelques jours son personnel civil de Beni, au Nord Kivu. Invité de Radio Okapi, la porte-parole de la mission onusienne explique qu'il s'agit d'une mesure préventive qui ne concerne que le personnel congolais avec ses dépendants. Ndeye Kadi dément également les rumeurs faisant état du retrait de la MONUSCO de la ville de Bunia en Ituri. Elle regrette que certaines personnes mal intentionnées distillent des rumeurs pour manipuler l'opinion et discréditer la mission onusienne engagée dans la mission de protection des civils. Ndeye Kadilo répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, madame le porte-parole de la MONUSCO.
Bonjour.
Des rumeurs devenues virales sur la toile accusent la MONUSCO d'évacuer en catastrophe son personnel civil de Beni, où une attaque imminente des rebelles serait annoncée. Quelle est votre réaction face à ces allégations?
Vous avez bien fait de dire que allégation, parce qu'il ne s'agit pas d'une évacuation en catastrophe à la suite d'annonces d'attaque. Il s'agit juste d'une mesure qui a été prise pour une réduction temporaire du personnel des Nations Unies, en particulier les membres des familles du staff national et certains staffs nationaux. Cette mesure concerne principalement le personnel non essentiel et leurs dépendants. Vous savez qu'à Beni, les internationaux qui sont là-bas n'ont pas leur famille. C'est juste le personnel national congolais qui a sa famille. Donc c'est ce personnel et ses dépendants qui est concerné. Le gouverneur du Nord Kivu, actuellement basé à Beni, a été officiellement informé de cette décision par le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni. Il s'agit juste d'une mesure préventive prise par précaution face à la situation sécuritaire globale au Nord Kivu, dont vous connaissez l'état. Et il s'agit de personnes. Le personnel engagé directement dans la mission de protection des civils reste sur place et continue d'exécuter son mandat aux côtés de ses partenaires, notamment les FRDC, la police nationale congolaise, la société civile et les autorités civilo-militaires.
Mais la mesure a suscité une psychose au sein de la population.
Et c'est juste parce qu'il y a eu cette désinformation que la population a mal interprété une décision qui a été prise et la même décision avait été prise pour Goma, pour Bukavu. Mais pour Beni, les raisons sont celles que je viens de vous énumérer.
À Bunia, madame, certaines thèses qui se répandent reprochent à la mission onusienne de vouloir quitter la ville et laisser la place aux rebelles EDF. Qu'en dites-vous?
C'est également absolument faux. Là, c'est même pas partiellement faux. C'est absolument faux. C'est pas pour la même situation qu'à Beni. En Ituri, la MONUSCO est activement engagée dans la lutte contre les groupes armés. Il n'y a aucune volonté de partir ou une décision d'évacuer le personnel à Bunia. C'est absolument faux. Aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO assure la sécurité de centaines de milliers de déplacés depuis plusieurs années. Mais il est important de rappeler que toutes ces mesures ne sauraient être effectives sans la contribution de toutes les communautés concernées. Et si vous allez en Ituri, à Boulé, à Fataki, à Bayo, Plensavo, Drodro et Ro, la MONUSCO assure la protection directe de Congolais en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, je réitère qu'il n'y a aucune volonté de la MONUSCO d'évacuer Bunia ou de faire partir son personnel de Bunia. La mesure qui a été prise ne concerne que Beni pour le moment.
Revenons au Nord Kivu, précisément à Goma, où la MONUSCO est accusée aussi d'avoir transporté dans l'aide de ces hélicoptères des rebelles d'M23. Qu'en est-il exactement, madame?
C'est également absolument faux. Ce genre de message que l'on voit souvent vise à manipuler l'opinion et à inciter à la violence et à la montée du sentiment anti-MONUSCO. La MONUSCO ne soutient aucun groupe armé en RDC. Son mandat est de protéger les civils, de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo afin de contribuer à la paix. Les hélicoptères de la MONUSCO servent uniquement aux missions de maintien de la paix et à la mise en œuvre du mandat de protection des civils. Donc il faut que les populations comprennent qu'il y a des personnes qui ont un intérêt particulier à propager ce genre d'informations, mais qu'appeler à la violence met des vies en danger et est puni par la loi. Donc, il faut partager des informations vérifiées et consulter les sources officielles de la MONUSCO et des médias crédibles pour éviter la propagation de ce genre de fausses nouvelles. La MONUSCO ne peut pas être aux côtés des FRDC, combattre avec les FRDC, perdre des casques bleus qui ont perdu leur vie en RDC, qui ont versé leur sang pour la paix en RDC, et après transporter des groupes armés dans ces hélicoptères. C'est absolument faux et ça n'a aucun sens.
Au nom de la mission onusienne, avez-vous un message à lancer à toute la population congolaise à ces moments où le pays fait face à une crise sécuritaire, surtout dans sa partie orientale?
Non, le message que nous voulons lancer à travers votre antenne, c'est juste de réitérer notre appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. Nous les invitons à respecter leurs engagements pour ceux qui en ont pris dans le cadre des processus qui existent, et nous appelons les populations à favoriser les initiatives de paix.
Madame Ney Kadilo, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi.
À la présentation de ce journal qui arrive à sa fin, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est signée Alain Goy. La coordination et la supervision ont été assurées par Richard Junior Kamunga. Merci à tous de nous avoir suivis.